Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 1. Le taudis de la Frochard se trouvait dans une des plus vieilles masures de la rue de l'Oursine. C'est toutefois, l'on peut appeler rue, une réunion sans alignement de quelques misérables bicoques sur les bords de la petite rivière de la Bièvre. Il ne faisait pas bon se hasarder, même en plein jour, dans ce faubourg de Paris, où grouillait une population recrutée parmi les vagabonds de toutes catégories et dont la turbulence tenait continuellement en haleine les archers du guet chargés de purger la grande ville des malfaiteurs qui l'infestaient. Le nombre de ces individus prêts à tout était devenu si considérable déjà vers la fin du règne de Louis XIV que le roi jugea la prévôté impuissante à châtier les bandits qui, selon une expression restée célèbre, faisaient de Paris le bois le plus funeste. Par édit, le roi Soleil créa une lieutenance générale de police dont M. de Larigny fut le premier titulaire. Il était grandement temps de rassurer un peu ce bon peuple de Paris qui vivait dans des transes continuelles au récit des vols sans nombre, des crimes de toute nature dont il était question dans les gazettes de la ville et les écrits de Danjou. Aussi la population paisible n'osait-elle plus se risquer à la tombée de la nuit dans les rues noires. Les bourgeois les plus audacieux ne sortaient le soir qu'avec une lanterne à la main et ne négligeaient pas de se faire précéder, soit par un apprenti, soit par la servante portant également une lanterne. Quant aux seigneurs, ils faisaient marcher devant eux de véritables escouades de valets de pied tenant au poing les flambeaux de résine. Quelques-uns, plus riches ou moins courageux, avaient pour garde du corps des hommes à cheval, armés jusqu'aux dents. Le premier soin de l'araignée, en arrivant à la lieutenance de police, fut d'établir un réverbère fixé à l'extrémité de chaque rue et un troisième au milieu. Et c'est aux vagues lueurs des chandelles garnissant les nouvelles lanternes que les agents de police, les archers et le guet à cheval commencèrent la chasse aux malfaiteurs. De sanglantes rencontres avaient lieu entre policiers et voleurs, à la grande terreur des habitants qui assistaient de leur croisée aux incidents de ces bagarres. Au bout de quelque temps, les malfaiteurs, traqués de la sorte, durent évacuer la ville pour aller camper dans les faubourgs où ils pouvaient tenir en échec, pendant longtemps encore, la force armée lancée à leur poursuite. Tout le quartier, arrosé par la Bièvre, devint, par le fait de sa topographie, l'asile de cette population de gens sans aveu que l'on pourchassait à outrance. Il y avait là, grâce aux terrains vagues et accidentés, aux ruelles tortueuses, aux rues à peine tracées, un refuge pour toute la horde de misérables, chiffonniers, mendiants et voleurs. La petite rivière, témoin de tant de scènes scandaleuses ou sanglantes, se réhabilitait de ce voisinage de gueux en offrant ses eaux pour le service de quelques moulins et teintureries. Par contre, en arrivant dans la rue de l'Oursine, la Bièvre coulait sur un véritable lit de détritus et d'immondices dont les émanations empestaient l'air pendant l'été. L'hiver, la boue puante envahissait les ruelles coupées de flaques d'eau qui croupissaient là pendant toute l'année. C'est dans ce foyer de miasme que la Frochard avait choisi un logement où elle put être à l'abri des curiosités de la police. La mégère ne tenait nullement à ce qu'on se mêlât de ses affaires de famille après que le chef de la tribu des Frochards eut payé sa dette à la justice en place de grève. Depuis nombre d'années, la femme du supplicié habitait ce faubourg qui se peuplait peu à peu de tout le ramassis de gueux, fuyant devant la petite armée mise sous les ordres du lieutenant général de police. La rue de l'Oursine, à cette époque, était une des seules voies de ce quartier qui eussent leur tracé bordé de quelques habitations. Mais quelle architecture ! Des masures décrépites, aux murs lézardés, aux toitures en partie effondrées ! On sentait bien que la main du maçon n'avait jamais passé par là, et que les habitants avaient été eux-mêmes architectes et constructeurs de ces singuliers immeubles. De là une fantaisie dans les plans qui ne manquait pas de pittoresque au point de vue artistique, mais qu'il importait de bouleverser de fond en comble et au plus tôt en vue de l'assainissement de Paris empoisonné par les miasmes de ses faubourgs. La masure habitée par les Frochards menaçait ruine depuis longtemps. Les murs, rongés par une lèpre de mousse qu'entretenait l'humidité, avaient peine, on le voyait, à soutenir la toiture crevée par places. La porte s'ouvrait dans la boue, et l'on ne pénétrait dans le taudis qu'à la condition de se maintenir en équilibre sur deux marches usées et glissantes. Le rez-de-chaussée avait dû, à l'époque de la construction, se composer de deux pièces, ainsi que l'indiquait une poutre au sommet de laquelle se devinaient des restes de cloisons sous d'innombrables couches de toiles d'araignée. Les locataires qui s'étaient succédés dans l'immeuble, se trouvant sans doute trop à l'étroit, avaient fait sauter la cloison, de sorte qu'au moment où la Frochard avait pris possession du logement, le dit rez-de-chaussée se composait d'une pièce unique de la plus misérable apparence. Le mobilier n'était guère de nature à rehausser l'aspect de la chambre. Au fond se trouvait un grabat composé d'un matelas éventré, dont la laine s'échappait poussiéreuse et maculée. L'unique tenture consistait en un vieux châle jadis à carreaux, mais ayant, par vétusté, perdu toutes ses nuances et qui, jeté sur une corde, masquait en partie le grabat de la mendiante. Le mobilier se composait de quelques vieilles épaves de l'ancien ménage des Frochards. Un buffet tout vermoulu, dont les portes ne se maintenaient fermées qu'au moyen de taquets fichés dans les fentes, occupait le coin gauche de la pièce. Ce buffet avait deux destinations bien distinctes. La Frochard y enfermait quelques assiettes ébréchées, des écuelles hors de service, des gobelets d'étain et des couverts de plomb, et Pierre le Rémouleur, la nuit venue, trouvait moyen de tasser, contre l'un des côtés du vieux meuble, une moitié de la botte de paille qui lui servait de couche, de façon à se confectionner un semblant d'oreiller. Le pauvre garçon n'avait, pour se reposer des fatigues de ses longues journées de travail et de marche, que ce misérable lit et une mauvaise couverture en loques. Par contre, lorsqu'il plaisait au chérubin de réintégrer le domicile maternel pour une nuit, Pierre était tenu de céder sa botte de paille au beau Jacques et de s'étendre sur le carreau. Et cela, bien qu'il y eût dans la chambre un vieux fauteuil amputé d'un pied poussé contre le mur. Ce siège était considéré par la Frochard comme une relique. C'était le fauteuil du supplicié et la mendiante ne permettait qu'à Jacques de s'y asseoir. Au milieu de la pièce, une table boiteuse ne tenait en équilibre qu'au moyen de ronds de liège que le rémouleur avait façonné pour cet usage. Ce qui faisait dire à la mégère, par allusion à l'infirmité de son fils, « Il y a deux boiteux dans la maison !» À côté de la table, un fourneau en terre, maculé de noir de fumée et de plaques de graisse de friture, servait, les jours de gala, à mettre à griller la côtelette de porc frais ou à faire chanter la marmite dans laquelle bouillaient, avec des déchets de viande, les légumes volés chez les maraîchers de Montsouris. Enfin, parmi tous ces meubles disloqués et disparates, la meule de pierre avait trouvé place dans un coin où, la journée finie, le rémouleur repassait encore les couteaux et les ciseaux qu'on avait bien voulu lui confier. Et presque toujours, la Frochard s'endormait au susurrement de la meule attaquant l'acier. Voilà pour le rez-de-chaussée. À droite, à côté d'une fenêtre, un petit escalier vermoulu conduisait à un grenier dans lequel s'accumulaient des tas de chiffons que la mendiante récoltait pour les revendre et dont le produit servait au plaisir du chérubin. C'est dans ce taudis que la pauvre Louise allait recevoir l'hospitalité de la Frochard. Lorsque l'aveugle, traîné au bras de la mendiante, eut parcouru la distance qui séparait le pont neuf des bords de la Bièvre, la malheureuse enfant succombait à la fatigue. Aussi Pierre s'empressa-t-il, ayant ouvert la porte, d'offrir la main à la jeune fille pour l'aider à pénétrer dans la maison pendant que la mendiante criait. « Faut faire attention, la petite! Il y a deux marches à descendre !» Puis elle ajouta avec un gros rire. « J'ai choisi un appartement de rez-de-chaussée, parce que les médecins m'ont défendu de monter les étages. Ça m'essouffle !» Mais Louise était trop accablée, trop désespérée, pour prêter attention à ce qui se disait. La pensée d'Henriette l'occupait tout entière. Tant qu'elle s'était trouvée dans la rue, la pauvre aveugle avait conservé une vague espérance. Elle se disait que, peut-être, sa sœur avait recouvré sa liberté. S'il en était ainsi, Henriette avait dû, bien certainement, retourner sur la place, devant le bureau des messageries, Là, elle avait pu s'informer et apprendre qu'une âme charitable s'était chargée de recueillir l'abandonné. Peut-être aussi lui avait-on indiqué la direction à suivre. C'était rêver l'impossible. Mais la malheureuse, dans son affolement, s'était accrochée à cet impossible comme à une dernière espérance. Elle n'avait cessé pendant tout le parcours de prêter l'oreille au moindre bruit de la rue. Chaque fois que le pas d'un passant avait résonné sur le pavé, Louise avait conçu un nouvel espoir, bientôt suivi, hélas, d'une nouvelle déception. Mais maintenant qu'elle était dans cette maison, où l'on avait bien voulu la recevoir, elle était retombée dans la plus profonde douleur. C'en était donc fait, elle ne se retrouverait plus, ce jour-là, auprès de son Henriette. C'était la première fois, depuis qu'elle avait été recueillie par Madame Gérard, qu'elle se trouverait chez des étrangers. La première fois, enfin, qu'elle s'endormirait sans avoir embrassé sa sœur bien-aimée. Une douloureuse émotion s'empara de cette infortunée lorsqu'elle entendit la porte se refermer derrière elle et que l'humidité de la pièce où elle se trouvait glaça subitement tout son corps. Elle éprouvait une sensation d'angoisse indicible et son cœur se serrait sous cette impression qu'elle ne pouvait surmonter. Elle était restée immobile à la place où l'avait laissée la Frochard. Elle n'osait plus ni bouger ni parler. Elle aurait bien voulu, cependant, interroger les gens qui s'étaient chargés d'elle, leur parler de son malheur, et s'assurer encore qu'on ne négligerait aucune démarche pour l'aider à retrouver sa sœur. Louise avait été frappée du silence qui s'était fait autour d'elle depuis quelques instants. Elle se demandait pourquoi cette bonne dame, pourquoi ce jeune homme qui l'avait sauvée, n'avait plus un mot d'espérance à lui adresser. Si la malheureuse aveugle avait pu voir le visage bouleversé de Pierre, quelle n'eût pas été sa douleur. Le rémouleur, en ce moment, observait d'un œil inquiet la physionomie de la Frochard. Il redoutait, lui qui connaissait sa mère, d'avoir deviné ce que ruminait silencieusement la mendiante. Il se disait que la mégère avait happé une proie et qu'elle savourait, avec ses instincts de fauve, la joie qu'elle éprouvait de cette aubaine inespérée. Cet être chétif reconnaissait son impuissance à intervenir, habitué qu'il était à ne jamais aller à l'encontre de la volonté maternelle et à trembler devant un frère brutal et plus robuste que lui. Si Louise eût pu voir le regard suppliant que le rémouleur adressait en ce moment à la Frochard, elle eût compris toute l'étendue de son malheur. Si elle avait ignoré jusque-là en quelles mains elle était tombée, l'aveugle n'allait pas tarder à passer par une série d'étonnements douloureux. La Frochard, certaine désormais que sa capture ne pouvait plus lui échapper, s'apprêtait à se montrer telle qu'elle était réellement. L'ignoble créature allait jeter bas le masque d'hypocrisie dont elle s'était servie pour s'attirer la confiance de la jeune fille. Si elle se décidait à avoir encore quelques ménagements, ce ne devait être que pour arriver plus rapidement à son but. Elle ne se crut plus obligée néanmoins à conserver le ton doucereux qu'elle avait gardé jusque-là. Et c'est de sa voix éraillée et traînante qu'elle dit tout à coup à Louise.
« Faut voir se reposer à présent, la petite. Nous allons vous fabriquer une couchette où vous dormirez tant bien que mal. Je n'étais pas préparée à de la visite, et vous vous contenterez de ce que j'ai à vous offrir. »
L'aveugle formula timidement une phrase de remerciement. Mais soudain, elle s'interrompit en se rejetant en arrière. La Frochard s'était approchée d'elle et essayait de dégrafer le corsage de sa robe.
« C'est juste, » ricana la mendiante. « Vous n'avez pas besoin de femme de chambre. Allons, ma petite, déshabillez-vous pendant que je vais faire la couverture. »
Et s'adressant au rémouleur avec son mauvais sourire.
« Allons, Pierre, aide-moi à retourner le matelas pour que ça soit bien douillet. »
Elle avait, tout en parlant, pris à brasser la botte de paille et l'emportait dans le grenier. Arrivée au bout du petit escalier, s'apercevant que le rémouleur n'avait pas bougé de place, elle lui cria d'un ton menaçant qui ne souffrait pas de réplique.
« Dis donc, hé, feignant, faut-il que j'aille t'aider ?»
Louise, toute stupéfaite et tremblante, se hasarda alors à dire. « Madame, je ne suis plus fatiguée. Je ne dormirai pas. Permettez-moi de passer la nuit sur une chaise. »«
Sur une chaise ?» s'exclama la Frochard en riant. « Vous passerez la nuit sur une chaise pour que demain vous ayez les ossements brisés ?» et que vous ne pouviez plus mettre un pied devant l'autre. Vous voulez rire, la petite ?»
Après avoir lancé la botte de paille dans le grenier, la mendiante, descendant précipitamment les marches,
saisit par le bras Louise qui s'était mise à pleurer. « Allons, allons !» dit-elle. « S'agit pas de pleurnicher à cette heure, pour vous rendre malade. Quand on a du chagrin, c'est pas la peine de se changer en gouttière. J'en ai eu, moi, du chagrin, et j'ai pas pleuré. J'en ai fait pleurer d'autres. » Louise, au son de cette voix dont la Frochard ne prenait plus la peine de dissimuler l'âpreté, ressentit un douloureux tressaillement et son sang se figea dans ses veines. Une pâleur extrême envahit son visage. Et comme la mendiante essayait encore de l'entraîner, elle se raidit énergiquement. Puis, joignant ses mains tremblantes, « Madame, supplia-t-elle, laissez-moi rester ici, près de vous, par terre, au pied de votre lit, car vous comprenez bien que je ne saurais dormir. Lorsque je me rappelle tout ce qui m'est arrivé depuis quelques heures, lorsque les larmes m'étouffent, lorsque j'ignore si je retrouverai jamais celle dont je pleure l'absence. » La Frochard fit un geste de colère, mais se ravisant. « Bien sûr qu'on la retrouvera, votre sœur. Ça se retrouve toujours une jeune fille, tôt ou tard. » Et avec un ricanement aigu. « Mais pour la retrouver, faudra marcher longtemps. »« Oh, je marcherai !» s'écria Louise. « Faudra parcourir beaucoup de quartiers, fouiller tout Paris. Je vous suivrai partout, madame. »« Pardienne, j'y compte bien. Mais c'est pas en passant la nuit en Jérémiade que vous aurez la force de trotter. » Pierre avait écouté ce dialogue sans lever les yeux sur Louise. Le brave garçon avait vu le visage de sa mère se contracter à plusieurs reprises et il aurait voulu pouvoir mettre un terme à cette scène dont il redoutait l'issue. Il savait la mégère capable de terribles emportements. Il s'approcha doucement de l'aveugle et lui murmura à voix basse. « Mamselle, la mère a raison, faut vous reposer. » Et comme s'il eût voulu rassurer la pudeur de la jeune fille, « Vous serez toute seule là-haut, dit-il, et l'on fermera la porte. »«
Vous voyez bien, la petite, interrompit la Frochard, que j'ai raison, Pierre lui-même vous le dit. »
Louise crut devoir céder à l'intervention de celui qui avait droit à sa reconnaissance, et se tournant vers la mendiante. « Puisque vous insistez, madame, fit-elle avec un soupir, je ne veux pas vous désobéir, conduisez-moi. » Mais au moment d'emmener la jeune fille, la Frochard s'arrêta, les yeux braqués sur sa victime. Elle était tombée en arrêt devant un ruban de velours noir qui entourait le cou de Louise. Pierre avait saisi le mouvement et n'avait pu se défendre d'un geste de terreur, aussitôt réprimé par un regard aigu de sa mère. Celle-ci, au surplus, ne lui laissa pas le temps de parler.
« Qu'est-ce que vous avez donc là ? » demanda-t-elle à la jeune fille. « Là, au bout de ce velours !»
L'aveugle porta vivement la main à son cou et fit sortir du corsage l'objet désigné.
« C'est un petit médaillon en or que m'a donné ma bienfaitrice, Madame Gérard, » répondit-elle. « Une parente, sans doute, » fit la mendiante que le médaillon d'or semblait fasciner.
« Celle qui m'a servi de mère. »
« Alors, ma petite, je comprends que vous teniez à ce bijou. Aussi, retirez-moi bien vite ça. Je vais le mettre dans mon armoire pour qu'il ne se perde pas. »
« C'est que, balbutia Louise, je ne me suis jamais séparée de ce souvenir. Je ne le retire jamais pour me coucher. »«
Eh ben, faudra commencer aujourd'hui !» s'écria la vieille femme.
Et sans s'inquiéter de la surprise qui se manifestait sur le visage de l'aveugle, elle dénoua violemment le ruban et s'empara du médaillon. Pierre, honteux comme si Louise eût pu le voir, détourna les yeux pendant que sa mère, poursuivant l'inspection de la toilette de l'aveugle, venait d'apercevoir une paire de boucles d'oreilles que portait la jeune fille. La Frochard avait naturellement jeté son dévolu sur ces objets. Ce que voyant, Pierre voulut essayer de s'opposer à ce qu'il considérait comme un vol. Mais un regard de sa mère le cloua sur place. Pauvre garçon baissa les yeux et détourna la tête pour ne plus être témoin de l'acte infâme qui se commettait dans sa présence. Pendant ce temps, les boucles d'oreilles de Louise disparaissaient dans la poche de la voleuse. Après quoi, la Frochard jugea qu'elle pouvait emmener sa victime dans le grenier. Elle l'aida à gravir les marches. Resté seul, Pierre eut un mouvement de violente révolte contre lui-même. Il s'accusait de lâcheté. Sa conscience lui criait qu'il était le complice du vol, puisqu'il n'avait rien fait pour s'opposer à son accomplissement. Il se jugeait méprisable d'avoir laissé dépouiller la malheureuse enfant qui s'était confiée à lui et à sa mère. Il se disait qu'il était... lui aussi, un misérable,
et que c'eût été son devoir d'empêcher cette action coupable. Fallut-il, par un acte d'énergie, s'arracher à l'implacable autorité qu'il subissait depuis si longtemps. Il avait conscience, enfin, de la complicité morale qu'il assumait. Et, pendant quelques secondes, le sang bouillonna dans ses veines. Mais un tel effort ne pouvait durer dans cette nature affaiblie qui s'était de longue date assouplie aux brutalités des siens. Sa révolte éphémère s'éteignit dans les larmes. Il alla s'affaisser sur un escabeau et, la tête plongée dans les mains, il se mit à pleurer comme un enfant. Larmes d'impuissance qui eurent promptement raison de la rage qu'il avait au cœur et paralysa les velléités de résistance qu'il avait senti poindre en lui. L'opprimé se replaçait de lui-même sous le joug après avoir entrevu une fugitive résurrection de sa dignité. Puis, il s'efforça de croire qu'il avait pu se tromper sur les intentions de sa mère. Mais tout aussitôt, il pensa à ce Jacques qui avait sans cesse besoin d'argent pour ses honteuses débauches. Il lui semblait entendre sa voix qui lui criait « De quoi te mêles-tu, l'avorton? Si tu as quelques côtes de trop, faut le dire. On se chargera de t'en débarrasser. » Tout à coup, Pierre passa rapidement la manche de sa veste sur ses yeux pour essuyer ses larmes. La porte du grenier avait craqué en s'ouvrant. La Frochard était au haut du petit escalier. Elle tenait dans ses bras toutes les hardes de l'aveugle et les montrait d'un air triomphant à Pierre. Le rémouleur fit quelques pas au-devant de sa mère, les yeux fixés sur la robe qu'avait portée Louise, le fichu, les souliers à boucles, si petits qu'un enfant eût pu les chausser. Et Pierre ne pouvait détacher ses regards de ces objets qu'il aurait voulu arracher des mains de la Frochard. Il lui semblait qu'en les touchant, la mendiante profanait les vêtements de la chaste créature à qui ils appartenaient. La mégère l'interpella. « Eh ben, qu'est-ce que t'as donc à me regarder comme ça, l'avorton ? Si t'avais été un beau brin de fille, comme mon Jacques est un fier bel homme, t'aurais pu te parer de toutes celles belles des frocs-là » Pierre eut une sensation de vertige. « Qu'est-ce que vous comptez donc faire de ça, la mère » demanda-t-il en essayant de paraître calme. « Ah ça, monsieur l'honnête homme, te figure pas que je vais nourrir cette petite à rien faire !» Le rémouleur était devenu affreusement pâle. « Eh ben quoi ?» glapit la mégère. « Te v'là en pamoison comme un oison ? T'es donc trop bête pour comprendre ?»«
Je comprends, ma mère, » dit Pierre avec tristesse.
« Quoi ? Que vous avez promis à cette jeune demoiselle de l'aider à retrouver... »
La Frochard l'interrompit par un bruyant éclat de rire.
« Je te croyais pas encore si bouché, l'avorton !»«
Ma mère, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de... »«
Ah ça ? Est-ce que tu voudrais m'interrogatorier, imbécile ?»
La Frochard était maintenant en veine de gaieté. Elle continua sur le même ton gouailleur.
« Est-ce que t'es lieutenant de police à présent ?»
Puis, toisant son interlocuteur médusé.
« Tu voudrais peut-être bien que je me prive du gagne-pain que le bon Dieu ou le diable, je sais pas lequel, m'a envoyé pour me soulager dans mon travail. Tu voudrais peut-être que ta pauvre mère continue à s'échiner vitam aeternam quand elle a dans les pattes une débutante à mettre dans les bons endroits. C'est ça que tu voudrais, mauvais cœur, parce que t'es lâche au point que si j'étais pas sûr de moi, je croirais que t'es pas le fils du grand Anatole Frochard, un homme qui n'avait pas son pareil pour... »
La misérable créature avait complété sa pensée en faisant le geste de porter un coup de couteau. Pierre tourna en tremblant les yeux vers la porte du grenier, comme s'il eût craint que l'aveugle eût entendu ce que venait de dire la Frochard. Celle-ci, une fois lancée, ne s'arrêtait plus. Aussi continua-t-elle en s'animant de plus en plus.
« Parce que t'as pas voulu faire le métier de ta mère. Tu crois que tu vas empêcher la petite de nous gagner de bonnes recettes en l'exerçant avec moi ?»«
Vous voulez la forcer de mendier ?»«
De mendier pour Jacques, n'est-il pas vrai ?»«
Oui, » s'exclama la mendiante.
« C'est pour lui que nous travaillons tous. Et elle travaillera comme nous, pour mon chérubin. »
Et elle ajouta.
Puisque ces brigands de riches ne donnent plus aux vieilles, eh ben, c'est une jeunesse qu'on leur servira. Elle a aussi une bonne infirmité, encore meilleure que la tienne, l'avorton. Une aveugle, c'est une bénédiction du ciel qui nous tombe de là-haut.
Pierre était indigné. Et que pouvait-il objecter lorsque la mendiante avait parlé? La Frochard poursuivit.
J'ai trouvé l'instrument, mais faut le mettre d'accord pour qu'il joue comme il faut. Ça, c'est mon affaire.
Le rémouleur hocha tristement la tête. Il se rappelait, lui, le pauvre souffre-douleur, les terribles épreuves par lesquelles il avait dû passer lorsque sa mère s'était mise en tête de l'obliger à mendier sur la voie publique. Il prévoyait que sa mère et son frère deviendraient deux impitoyables bourreaux pour l'infortuné que le hasard avait fait tomber dans leurs griffes. Il n'ignorait pas, lui qui l'avait subi, à quel genre de supplice on vouerait la pauvre enfant avec cette cruauté froide dont la Frochard graduait si bien tous les raffinements lorsqu'il s'agissait pour elle de briser une volonté. Et Pierre, qui avait subi tous les mauvais traitements, ne pouvait espérer que cette frêle abandonnée résisterait aux tortures qu'on ne lui ménagerait pas. Quant à attendrir la mendiante, il n'y fallait pas songer. Cette mégère n'avait jamais eu de pitié dans le cœur, et sa tendresse, qui tenait de la folie, pour son fils aîné, la rendait capable de toutes les infamies lorsqu'il s'agissait d'alimenter la bourse du paresseux Bellâtre. Aussi, Pierre ne pouvait-il s'empêcher de trembler en entendant sa mère parler de ses intentions à l'égard de la jeune fille. La Frochard ne cachait plus maintenant ses détestables projets. Elle se faisait une fête d'annoncer à Jacques la bonne fortune qui lui arrivait. Pierre écoutait silencieusement. Chacune des paroles prononcées par sa mère le frappait en plein cœur, comme des coups de couteau. Il avait, dès le premier moment de leur rencontre, ressenti pour Louise une touchante sympathie, la sympathie spontanée du malheur pour le malheur. Il avait été ému jusqu'au fond de l'âme à la vue de cet affligé dont le triste sort et la douleur si poignante n'avaient pas trouvé grâce devant la Frochard. Lui, le chétif, l'avorton, qui tremblait devant Jacques, il avait rêvé d'être le protecteur de quelqu'un. C'est pour cela que, dans un mouvement de joie irréfléchi, il s'était écrié « Il me semble que je ne suis plus aussi seul dans le monde. » Qu'espérait-il, ce déshérité de la nature, ce boiteux qui avait conscience de son état lamentable, ce souffre-douleur auquel on n'épargnait ni les injures, ni les horions, qu'il supportait sans se révolter, sans même oser se plaindre? Il n'avait d'autre ambition que d'être utile, s'il le pouvait, à une créature encore plus misérable que lui, puisqu'elle était aveugle, abandonnée et menacée des plus cruels sévices. Maintenant qu'il apprenait ce qu'on ménageait à la pauvre enfant, sa sympathie pour elle se changeait en une sorte de culte. Mais quel secours pouvait-il offrir à sa protégée? La colère qui lui montait au cerveau ne devait-elle pas tomber au premier sarcasme que lui adresserait sa mère, au premier geste d'autorité de Jacques? L'énergie lui faisait défaut pour s'arracher à la vie de souffrance qui avait été son partage dès sa plus tendre enfance. La nature, après lui avoir mis la bonté au cœur et la droiture dans l'esprit, avait laissé son œuvre inachevée en le privant de l'énergie qui permet de résister à ceux qui n'ont que la force physique comme argument. Et Pierre avait ainsi vécu, soumis et résigné, sans but dans la vie et sans espérance. Il se complaisait même dans son isolement, comme s'il eût compris que le fils du supplicié ne devait pas avoir d'amis. Mais à partir du moment où il avait rencontré Louise, et lorsqu'il eut appris que cet affligé allait demeurer dans le même asile que lui, qu'il vivrait à ses côtés, il éprouva pour la jeune fille ce sentiment instinctif qu'éprouve le pauvre chien errant pour le premier venu qu'il rencontre et qui ne l'a pas repoussé du pied. Il avait suffi que la voix si douce de l'aveugle le remerciât du service qu'il lui avait rendu pour qu'il éprouvât une sensation de bonheur inconnue jusque-là. Cette joie fut de courte durée. Non, il ne serait plus seul, mais ce n'était pas uniquement une compagne, c'était une autre victime qui devait désormais vivre et souffrir à ses côtés. Et le supplice de la pauvre enfant allait sans doute commencer dès le lendemain, à en juger par l'occupation à laquelle se livrait la mendiante. La Frochard, en effet, avait étalé sur son grabat les vêtements enlevés à Louise et regardait chaque pièce l'une après l'autre, disant à Pierre « C'est-y pas une vraie chance d'avoir trouvé toute cette belle défroque juste au moment où mes frusques s'en allaient en charpie ?» En entendant sa mère parler de s'approprier les hardes de l'aveugle, Pierre ouvrait de grands yeux étonnés. Il ne s'était pas figuré, lui qui était cependant habitué à tant de choses mauvaises de la part de la mendiante, que celle-ci pût avoir la pensée de dépouiller sa victime.
« Eh ben quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder de cette façon-là? Ça te fait donc le cœur gros de savoir que ta pauvre mère sera nippée pour son hiver? avec une bonne robe bien chaude et un châle bien épais. Comme si ce n'était pas mon dû d'avoir chaud, comme les fainéants de bourgeois. »
Et tout en parlant de cette voix aigre qui lui était habituelle lorsqu'elle quittait le ton hypocrite des mendiants, la Frochard avait mis le châle sur ses épaules, se mirait dans un fragment de glace plaqué contre le mur, et cela avec des gestes ignobles et un vieux regain d'impudique coquetterie à la fois grotesque et hideuse.
« Passe-moi le fichu !»
dit-elle à son fils qui avait détourné la tête pour retomber dans sa triste mélancolie. Pierre obéit machinalement. Il prit l'objet demandé et le présenta à la mendiante qui grommelait.
« Peste ! On se mettait bien dans cette famille, à ce qu'il paraît ! C'est brodé tout autour comme un fichu de princesse !»
Et s'entortillant le cou.
« Ça sera pour les dimanches, lorsque je conduirai mon gagne-pain à la messe, devant le portique, bien entendu !»
Le plaisir que prenait sa mère à se parer ainsi d'objets volés à Louise écœurait le brave garçon, obligé de subir ce pénible spectacle et d'écouter les paroles de la cynique créature. Pour se dispenser d'y répondre, Pierre avait rapproché son escabeau de la table et les coudes appuyés feignaient de succomber au sommeil.
« Paresseux !» cria la mégère. « Ça n'a pas pour deux deniers de courage !»
Puis, secouant avec violence le rémouleur.
« T'as bien le temps de dormir, puisqu'aujourd'hui nous sommes rentrés de bonne heure. D'ailleurs, faut que tu m'aides. »«
Que dois-je faire ?» demanda Pierre en levant la tête.
« Préparez le souper. »«
J'ai pas faim. »«
J'ai soif, moi. »
Ces mots avaient été appuyés d'un de ces regards froids que la mégère adressait à son fils lorsqu'elle voulait être obéie sur le champ. Pierre ouvrit le buffet, y prit une bouteille d'eau-de-vie et un gobelet qu'il plaça sur la table. La Frochard le regardait faire.
« Tu peux bien me servir ?»
dit-elle. Le rémouleur emplit au quart le gobelet d'étain pendant que la vieille femme regardait.
« Ah ça !» s'exclama-t-elle. « Est-ce que tu vas me mettre à la ration ? Si t'as pas soif, tant mieux ! Moi, j'ai la pépie. J'ai besoin de me rafraîchir. »
Et arrachant la bouteille des mains de son fils, elle emplit le gobelet jusqu'au bord. Elle était véritablement hideuse à voir, la Frochard. Le visage, enluminé, avec des teintes bleues aux pommettes, sillonnées de rides et marbrées de coupes roses. Les yeux, petits d'ordinaire, mais encore plus enfoncés sous l'arcade sourcilière, après les libations auxquelles on s'était livré au cabaret. Sa bouche rentrée, et presque sans lèvres, laissait voir des gencives édentées et brûlées par l'abus fréquent des alcools. Les cordes du cou, tendues par l'effet des conjections sanguines que subissait le cerveau, semblait tout près de se rompre. Le buste, empaqueté dans un amas de loques superposés, fléchissait sur les hanches où s'appuyaient des mains décharnées, ayant des crispations de serre avec leurs ongles recourbés en griffes. L'horrible femme eut un geste d'ivrogne pour porter à sa bouche le gobelet qu'elle vida à moitié d'un seul trait. Puis elle grommela entre les dents.
« C'est de la tisane ! Ces voleurs de marchands vous baptisent l'eau-de-vie, que c'en est dégoûtant ! »
Et du revers de sa main calleuse, elle essuya ses lèvres en marmottant.
« Je changerai de fournisseur maintenant que les recettes vont augmenter. »
Tout en parlant, elle avait suspendu les différents objets composant la toilette de Louise à la corde à côté du vieux châle à carreaux. Depuis un instant, Pierre n'écoutait plus. Il avait aperçu les souliers de l'aveugle restés par terre au milieu de la chambre. Pauvre garçon ne pouvait détacher ses regards de cette petite chaussure. Il pensait que la Frochard les avait oubliés et il espérait pouvoir s'en emparer pour les cacher afin de les rendre à Louise. Mais déjà la mendiante s'était souvenue de ces jolis souliers que l'aveugle avait retirés devant elle. Se précipita dessus en s'écriant.
« On t'en fichera, ma petite, des chaussures de cendrillon avec des boucles d'argent. C'est ça qui ferait fuir la pratique. »
Puis, essuyant les souliers, soigneusement du revers de sa manche, elle les plaça à côté de ses pieds comme pour les comparer. Et avec un geste de regret,
« C'est dommage, dit-elle, que j'ai le pied un tant soit peu déformé par la marche. Sans cela, ça m'irait comme un gant. »
Mais tout aussitôt, elle ajouta,
« Ça sera pour la belle Ajac. »
Ce nom fit sursauter le rémouleur. Chaque fois que, pendant le cours de cette soirée, la Frochard avait eu l'occasion de parler de son fils aîné, Pierre n'avait pu se défendre d'une impression d'effroi. N'avait-il pas tout lieu de redouter,
Pour l'aveugle, le retour du chérubin n'était-il pas d'avance certain que celui-ci ne se ferait pas scrupule de parler devant la jeune fille avec son cynisme habituel? Aussi le nom de Jacques, prononcé en ce moment, rendait-il Pierre si inquiet que le pauvre diable se mit à marcher pour se donner une contenance.
« Comment, ma mère ? » hasarda-t-il avec timidité. « Vous allez dépouiller cette pauvre fille ? Vous allez prendre tous ces objets ?»«
Pardieu ! » riposta la mégère. « Faudrait-il pas que je nourrisse mademoiselle gratis et à rien faire ?»«
Mais c'est volé !» s'exclama Pierre.
« Tiens, t'es pas trop bête, l'avorton. Est-ce que tu crois que je vais en faire une duchesse de cette petite ?»
Elle prit un temps, comme si elle eût voulu préparer un effet. Puis, froidement, les yeux fixés sur le visage bouleversé du rémouleur, elle ajouta
« Faut qu'elle travaille dès demain !»
Pierre demeura silencieux sous ce regard, qui, pour lui, indiquait une résolution inébranlable pendant que la Frochard continuait.
« Je vais lui préparer tout de suite son trousseau, car faudra déguerpir au petit jour !»
Hélas, le rémouleur n'avait pas eu besoin d'entendre ces dernières paroles pour penser que le supplice de l'aveugle commencerait bientôt. La mendiante ne lui laissa pas le temps de douter de ses intentions.
« Va me chercher le paquet de chiffres qui est là-haut, dans le grenier. Tu le trouveras bien sans lumière, je suppose, puisqu'il n'y en a qu'un. »
Pierre ne bougeait pas de place. Ce que voyant, la Frochard, les poings sur les hanches, fit un pas vers lui en s'écriant.
« Faut-il que tu sois lâche et feignant pour ne pas éviter une fatigue à ta pauvre mère qu'à les jambes qui lui rentrent dans l'estomac à force de marcher toute une sainte journée pour y gagner quelques sous ?»«
C'est bien, mauvais cœur, j'y vais moi-même. »
Elle se dirigea en jurant vers l'escalier qu'elle fit craquer sous ses pas lourds. Pierre s'élança pour la retenir par la jupe. Il venait de réfléchir que la vieille femme ne s'inquiéterait guère de réveiller Louise en sursaut si toutefois la pauvre fille, succombant à la fatigue, avait pu s'endormir. Il se résignait à obéir. Il était bien certain, lui, qu'il saurait marcher assez doucement pour ne pas interrompre le sommeil de sa protégée. Aussi eut-il, malgré son infirmité, des précautions de chat pour gravir les marches sans faire crier le bois. Il ouvrit la porte en la tenant soulevée, car il savait que les gonds rouillés grinçaient en tournant. Et, lentement, il s'introduisit dans le grenier. Il y faisait presque clair. Un faible rayon de lune, filtrant entre les essentes disjointes de la toiture, venait se jouer sur la botte de paille et la misérable couverture qui composait le grabat de Louise. Pierre passa comme un fantôme devant ce grabat sans oser tourner les regards vers la dormeuse. Il retenait son haleine de peur que la jeune fille pût se douter que quelqu'un eût osé s'introduire dans l'endroit où elle reposait. Le cœur du brave garçon battait bien fort et sa main tremblait lorsqu'il saisit le paquet de haillons qu'il souleva sans bruit. Chargé de son fardeau, il voulut regagner la porte au plus tôt. Mais il lui sembla que maintenant, ses jambes allaient se dérober sous lui. Il s'arrêta une seconde pour se remettre. Il était, sans s'en rendre compte, si ému, si troublé, qu'involontairement ses regards se portèrent sur la jeune fille. Le visage de la dormeuse saillait, à peine éclairé, sur le brun sale de la couverture qui recouvrait tout le reste du corps. Pierre contempla ses traits qui, pendant le sommeil, avaient conservé l'expression d'une profonde tristesse. Ce visage reflétait toutes les émotions éprouvées, toutes les transes que venait de subir la jeune fille. Il sembla même à Pierre que la dormeuse sanglotait en rêvant. La poitrine de Louise se soulevait sous l'effort d'une respiration saccadée et l'on devinait que le corps était violemment agité sous l'influence de quelques rêves douloureux. « Pauvre fille !» pensa le rémouleur. Une larme s'échappa de ses yeux et il s'éloigna en soupirant du grabat de l'infortuné. Tout à coup, au moment de refermer la porte derrière lui, il s'arrêta de nouveau pour écouter. Il lui avait semblé entendre parler dans le grenier. Il ne se trompait pas. C'était Louise qui, dans son sommeil, murmurait.
« Henriette, me voici. Pourquoi m'as-tu abandonnée ? Henriette, sauve-moi, sauve-moi »
« Qu'est-ce que tu fais donc là, plantée comme un pieu ?»
cria la Frochard en interpellant son fils.
Est-ce qu'il faut que j'aille t'aider, feignant ?»
Le rémouleur descendit l'escalier, toujours en ayant soin d'assourdir le bruit de ses gros souliers ferrés. La mégère lui arracha le paquet des mains et se mit à étaler devant elle les haillons qui s'y trouvaient pêle-mêle avec toutes sortes de chiffons. Elle prenait une à une les loques en marmottant.
« Qu'elle se plaigne donc, après ça, de manquer de toilette. Je vais lui donner tout ce qu'il y a de mieux dans ma garde-robe. »
Elle s'y entendait, cette vieille madrée, à composer un costume de haillons sordides, propre à faire naître la compassion. Elle tournait et retournait dans ses mains une vieille robe de toile qui avait été jadis semée de bouquets, maintenant effacée sous des taches et des souillures sans nombre. « Une vraie belle robe que j'ai portée dans le temps, du vivant de mon homme, » dit-elle. « C'est peut-être un peu clair pour la saison, mais quand il s'agit de mendier, faut pas avoir l'air d'une princesse du sang. »
La robe était trouvée. S'agissait de compléter la toilette. La Frochard fit un inventaire rapide de ce que contenait encore le paquet. Un vieux mouchoir à carreaux bleus, tout effiloqué, remplacerait le fichu brodé sur la poitrine de Louise. Pour Fanchon, une bande de toile de coton, restée dans ses plis et qui avait dû faire un long usage sur les cheveux poisseux de la mendiante. Il ne restait qu'à trouver les bas et la chaussure. Du bout des doigts, la Frochard souleva une paire de bas que les rats du grenier avaient attaqués au talon.
« Des bas à jour, » ricana-t-elle. « Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en porter. Plus que ça de luxe, ma petite, je vais te gâter, bien sûr, je me connais. »
Il fallait des chaussures en harmonie avec l'accoutrement sans nom que l'on destinait à l'aveugle. La mendiante n'avait pour cela qu'à choisir dans sa réserve de friperie. Elle eut bientôt découvert, dans le tas, une paire de savates dont l'étoffe noire et dure, au contact de la boue desséchée, jouait presque le cuir.
« Ne croirait-on pas que ça sort de chez le fabricant ?» dit-elle,
et comparant ses savates aux petits souliers à boucles qui étaient restés sur la table.
« Tu seras bien plus à l'aise que là-dedans, ma petite » ajouta-t-elle.
Jusqu'à ce moment, Pierre était demeuré immobile et comme étranger à tout ce qui se passait sous ses yeux. La Frochard l'arracha brusquement à ses douloureuses pensées.
« Pierre !» cria-t-elle. « Passe-moi ton couteau, que je fasse des soupapes à ces savates. Il n'y a rien comme ça pour faire naître la charité dans le cœur des bourgeois qui ont de bonnes semelles à leurs chaussures. »
Machinalement, le rémouleur tendit le couteau qu'on lui demandait. Et la Frochard se mit à entailler l'étoffe qui, cette opération pratiquée, devait forcément laisser passer au travers de la chaussure une partie des pieds de l'aveugle lorsque celle-ci serait impitoyablement traînée de rue en rue au bras de l'ignoble créature qui allait désormais lui servir de guide.
« Là le trousseau prêt !» glapit la mendiante en éclatant de rire. « Si ça ne crève pas le cœur à tous ces bêtas de riches, ça sera à désespérer du métier !»
Mais elle s'interrompit brusquement au beau milieu de son monologue. De son côté, Pierre avait eu un soubresaut sur son escabeau. Un grand tumulte venait de se faire entendre dans la rue, à quelque distance de la maison. Au milieu des vociférations et des clameurs, on pouvait percevoir le bruit du sabot des chevaux frappant leur fer sur le sol et aussi le cliquetis des arbres.
« C'est le guet à cheval !»
fit le rémouleur en se levant pour aller à la fenêtre. Mais la Frochard l'arrêta par le bras.
« Tu ne vas peut-être pas nous donner en spectacle à tous ces gueux qui poursuivent le pauvre peuple ?»« Dites plutôt des voleurs, ma mère, des misérables, qu'on fait bien de traquer comme des bêtes fauves qu'ils sont. T'as pas de honte, malheureux, d'oublier que ces coquins d'hommes de police ont assassiné ton père. Ces misérables gredins m'ont emmené mon Anatole, pieds nus, en pleine place publique. Et là,
s'interrompant et avec un geste terrible,
ah, si j'en tenais un. »
La mégère brandissait le couteau qu'elle tenait encore à la main. Elle s'élança, l'œil en feu, vers la fenêtre pour écouter. Le tapage augmentait dans la rue. C'était bien, ainsi que l'avait dit Pierre, le guet à cheval qui chargeait. Les fuyards s'arrêtaient de temps en temps pour lancer des pierres aux soldats, et alors une grêle de ces projectiles dégringolait tout le long du toit où venait frapper le mur de la masure. Depuis sa nomination à la lieutenance générale de police, le comte de Lignières avait pris la résolution de purger Paris des malfaiteurs, de débarrasser les rues de la grande ville des innombrables mendiants dont les rangs desquels se recrutaient toute la séquelle des voleurs à la tire. En outre, le nouveau lieutenant de police avait voulu sévir avec la plus grande rigueur contre ces incorrigibles spadassins, gentilshommes pour la plupart, tirant l'épée à tout bout de champ, n'importe où, dans une ruelle, à la lueur du premier réverbère venu, et cela en dépit des édits contre le duel. De là les rondes nocturnes et les expéditions qui mettaient sur les dents les hommes d'armes et les exemples de monsieur le lieutenant général de police. Il ne se passait pas de nuit qu'un des faubourgs de Paris ne fût le théâtre de quelques rixes sanglantes entre les archers du guet et ceux qu'ils étaient chargés de poursuivre et d'arrêter. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'audace des malfaiteurs. Ceux-ci non seulement tenaient tête aux exemples et aux archers, mais ils parvenaient souvent à paralyser l'action du guet à cheval au moyen de chaînes qu'ils tendaient dans les petites rues et contre lesquelles culbutaient chevaux et cavaliers. Or, tout le tapage qu'entendaient la Frochard et Pierre provenait d'une de ces expéditions nocturnes ordonnées par le comte de Lignières. La mendiante, dont la haine implacable pour les gens de police n'excluait pas le sentiment de la plus excessive prudence, s'était accroupie et se tenait silencieuse devant la fenêtre. « Jacques ne viendra plus ce soir, » dit-elle tout bas au rémouleur. « Faut aller nous coucher. » La mégère ne pouvait se défendre d'une certaine terreur en constatant que le bruit se rapprochait. Mais le rémouleur, qui vivait honnêtement de sa meule à repasser, était calme. Se demandait en ce moment si ce ne serait pas un bonheur inespéré pour l'aveugle que le guet vint à pénétrer dans la masure. « Les v'là qui vont passer devant la maison !» murmura la Frochard. « Si ces canailles-là voyaient de la lumière ici, ils pourraient bien vouloir entrer. Et la petite qui est là-haut ?» Puis vivement. « Éteins le lustre, l'avorton !» Le rémouleur souffla le bout de chandelle fiché dans le goulot d'une bouteille. La mèche lança un jet de fumée puante, et la misérable chambre fut ainsi plongée dans l'obscurité. Voilà dans quel taudis la malheureuse aveugle avait reçu l'hospitalité. Nous allons voir maintenant ce qu'avait été cette famille Frochard, au pouvoir de laquelle était tombée Louise.